VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 7 juillet 2015 présentée par Morgane Guiriek et Timothée Donangmaï. À la une ce soir.
La violence des islamistes a encore fait des victimes dans le nord du Nigeria, au moins 25 morts ce mardi dans l'état de Kaduna.
Attaque contre la radio nationale à Bangui.
On écoutera les explications du directeur général de Radio Centrafrique. Élections législatives sur fond de crise au Burundi, le parti au pouvoir rafle la majorité des sièges.
Dossier nucléaire iranien, les discussions sur l'accord final ont été reportées à vendredi.
Et nous reviendrons sur la crise de la dette en Grèce.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
Au moins 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et 32 blessées ce mardi par l'explosion d'une bombe attribuée aux islamistes de Boko Haram dans des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du Nigeria. L'information a été confirmée sur Facebook par le gouverneur de l'état de Kaduna, Nasir Ahmad El Roufai. On fait le point avec Jacques Aristide.
La bombe a explosé le matin au moment où des instituteurs et d'autres fonctionnaires faisaient la queue pour subir des contrôles d'identité d'après l'AFP. En l'absence de revendications, les soupçons se portent sur Boko Haram, très actif dans la région. Zaria, une ville à majorité musulmane, a déjà été la cible d'attaques des islamistes. Depuis l'entrée en fonction du nouveau président Muhammadu Buhari le 29 mai, ces derniers ont multiplié leurs opérations. Lundi soir, une jeune kamikaze de 13 ans avait péri dans un attentat manqué près d'une grande mosquée de Kano, la plus importante ville du nord du Nigeria, après 2 attentats meurtriers dimanche à Jos et un autre dans une église de Potiskum. Le président Buhari a fait une priorité de la lutte contre les insurgés, mais n'a pas réussi pour l'instant à faire cesser le bain-de-sang.
Lutte contre le terrorisme au Mali, Ali Agouadoussen, un responsable malien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué dimanche par les forces spéciales françaises de l'opération Barkhane. D'après le communiqué de l'armée française, 2 militaires français ont été blessés au cours de cette intervention qui a eu lieu dans la région de Kidal, dans le nord du Mali. 2 autres terroristes ont été capturés. Ali Agouadoussen, djihadiste Touareg, avait été relâché le 9 décembre 2014 par Bamako. C'était en échange d'un otage français.
En Centrafrique, des hommes armés non identifiés ont fait irruption la nuit dernière dans les locaux de la radio nationale, blessant l'un des 3 gendarmes de faction. Les assaillants, qui seraient une dizaine, ont forcé la régie, puis tenté de s'introduire en vain dans le studio principal, avant d'être repoussés par les forces onusiennes de la MINUSCA. Une enquête est ouverte pour déterminer s'il s'agit d'une tentative de coup d'État ou d'un braquage. Des précisions avec le directeur général de Radio Centrafrique, Éloi Belongo, joint par Félix Epassi Zembrou.
Il était environ entre 2h du matin et 3h du matin lorsque un groupe d'assaillants habillés de tenues militaires couleur désert ont fait irruption au niveau de la radio. Ils ont neutralisé tout d'abord les 2 gardes qui étaient là, c'était des gendarmes. Ils ont donc forcé l'entrée principale de la radio. Ils ont tenté en vain de pouvoir pénétrer dans le studio.
Ils étaient au nombre de combien ces assaillants ?
On parlait au moins d'une dizaine de personnes, puisque 2 sont rentrés pour les opérations. Mais sur la voie qui mène à la radio et tout autour, il y avait la présence de personnes habillées, tout en armes également, et d'autres qui tentaient d'escalader du côté ouest de la radio.
Selon vous, monsieur le directeur général, s'agit-il d'une tentative de coup d'État ou alors d'un simple acte de braquage ?
Braquage, je ne crois pas du tout. Si hypothèse il y a, je pourrais simplement dire que ça pouvait être certainement un coup d'État, dans la mesure où ils sont venus. Et c'est pour passer le message, puisque c'est surtout les studios qui les intéressent. Et aucun bureau n'a été donc cassé, donc il n'y a pas eu cas de vandalisme.
Éloi Belongo, directeur général de Radio Centrafrique.
Législative burundaise, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, rafle 77 des 100 sièges à l'Assemblée nationale. Tels sont les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Les indépendants de l'espoir, menés par Agathon Rwasa et Charles Nditije, obtiennent 21 sièges. Cette coalition d'opposition avait décidé de boycotter le scrutin, mais la CENI a affirmé n'avoir jamais reçu de requête formelle demandant le retrait des listes de ses candidats. Deux sièges reviennent à l'UPRONA, allié du parti au pouvoir. Quant à la présidentielle prévue ce mois-ci, nous y reviendrons en seconde partie d'émission lors d'une interview avec Alain Niamitoué, ministre burundais des Affaires étrangères.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso rencontrait son homologue français aujourd'hui à Paris. François Hollande lui a rappelé l'importance de préserver les institutions. Le point avec Michel Joseph.
S'agissant des enjeux d'approfondissement de la démocratie en Afrique, le président français a indiqué son attachement à la préservation et à la consolidation des institutions, insiste le communiqué de l'Élysée. Le président français a également rappelé son attachement aux principes de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union africaine qui suppose que les réformes constitutionnelles soient fondées sur un consensus. Un message qui fait écho à la situation politique en République du Congo. Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, a dirigé le pays pendant 30 ans. À l'approche des élections, le chef de l'État congolais a convoqué un dialogue national du 11 au 15 juillet pour discuter de l'organisation des futurs scrutins et de l'avenir des institutions. Mais l'opposition redoute qu'il ne s'agisse en réalité d'un stratagème pour modifier la constitution afin de lui permettre de briguer un nouveau mandat l'an prochain. La constitution congolaise, adoptée en 2002, le lui interdit à double titre. Elle limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et limite à 70 ans l'âge des candidats à la fonction suprême.
Au Kenya, 14 personnes ont été tuées dans un village du nord-est du pays dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shabab, responsables d'une série de raids meurtriers dans la région ces derniers jours. Claire Morin-Gibourg.
À 2 semaines d'une visite à Nairobi du président américain Barack Obama, l'insécurité persiste dans cette région excentrée et pauvre du Kenya qui partage une frontière de 700 km avec la Somalie. Une nouvelle attaque a eu lieu tôt ce matin dans le village de Sokobuzi, à proximité de Mandera. Aucune revendication n'a encore été faite, mais les autorités ont immédiatement pointé du doigt les militants islamistes d'Al-Shabaab. Ralliés à Al-Qaïda, ils mènent depuis 2007 une insurrection armée en Somalie et ont, à plusieurs reprises, mené des incursions sanglantes au Kenya, dont la terrible attaque contre l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts en avril dernier. Les Shabab ont multiplié les attaques meurtrières au Kenya depuis que l'armée kenyane est entrée en Somalie en octobre 2011 pour les combattre. Quelques 3500 Kenyans servent toujours en Somalie au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, qui compte 22 000 soldats, burundais et ougandais notamment.
Au Soudan du Sud, le nombre de civils réfugiés dans les bases de l'ONU ne cesse de croître. Pour la première fois depuis le début de la guerre civile, il y a 18 mois, ils sont désormais plus de 150 000 à être abrités dans les bases de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Et c'est ce qu'indique l'ONU ce mardi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise en Grèce, l'Eurogroupe dit attendre une nouvelle lettre du gouvernement grec présentant un ensemble de propositions claires et uniques. Le point avec Camille Grosdidier.
L'Eurogroupe tiendra mercredi une téléconférence lors de laquelle la question d'un recours par Athènes au mécanisme européen de stabilité sera évoquée. Sur 5 ans, la Grèce a accumulé 350 milliards de dollars de dettes. Le premier ministre grec Alexis Tsipras préconise d'en effacer 100 milliards, mais les créanciers d'Athènes font toujours la sourde oreille. Non, nous ne sommes pas disposés à alléger la dette de la Grèce, a dit le ministre finlandais des Finances, Alexander Stubb. On l'a déjà fait en 2011, on l'a déjà fait en 2012, a-t-il fait valoir. Si certains dirigeants européens sont toujours bien disposés vis-à-vis d'Athènes, d'autres restent sceptiques. Une chose est certaine, M. Tsipras s'est fait dire sans embâge qu'il doit soumettre un programme crédible s'il espère une aide accrue. La balle est dans son camp, à lui de la saisir. Si le gouvernement grec s'exécute, l'Europe tentera pour sa part de parvenir à un accord le plus vite possible. Il s'agira d'évaluer la situation financière et les besoins de la Grèce. Une fois le point fait, l'Eurogroupe décidera formellement d'entamer ou non de nouvelles discussions.
Encore un report de l'accord final sur le nucléaire iranien. Cette fois, les puissances mondiales et l'Iran se donnent jusqu'à vendredi, au lieu de ce mardi, pour mettre au point les mécanismes de vérification du programme nucléaire iranien et la levée des sanctions internationales. Nous avons fait des progrès considérables dans tous les domaines, mais c'est un travail très technique et d'une importance cruciale pour tous les pays concernés, a dit Mary Harf, porte-parole de la délégation américaine aux discussions de Vienne. Auparavant, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, avait fait état de plusieurs points épineux à résoudre, disant que le délai est flexible et que les parties prendront le temps qu'il faut pour finaliser l'accord.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco ce soir avec Camille Gros-Didier.
La fondation Bill et Melinda Gates vient d'octroyer un financement de plus de 3 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un projet intitulé « Épidémiologie des virus des plantes à racines et tubercules en Afrique de l'Ouest ». But de l'opération, augmenter de façon durable la productivité des plantes à racines et tubercules, notamment le manioc, par la gestion des maladies virales. La phase 1 du projet, financée donc par cette fondation Bill et Melinda Gates, doit durer 3 ans. Le projet regroupe 6 pays d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria et Togo. La phase 2, qui débutera en 2017, devrait s'étaler sur 4 ans. Elle bénéficiera de financements additionnels avec le Royaume-Uni. Et puis, dans cette seconde phase, le Cameroun et la République démocratique du Congo seront impliqués. Et puis en Côte d'Ivoire, ils sont formés mais sans emploi. 4 promotions d'élèves officiers et matelots de la marine marchande, forte d'un effectif de 600 personnes en fin de formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ont organisé lundi à Abidjan un sitting pour réclamer leur recrutement. Selon les plaignants qui ont dénoncé la corruption dans le secteur, les livrets maritimes sont attribués de préférence aux étrangers, notamment à des Asiatiques. Ils souhaitent que le président Alassane Ouattara s'implique à trouver une solution.
Merci Camille Gros-Didier pour la Minute Éco.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Tennis, tournoi de Wimbledon.
Oui, Novak Djokovic s'en sort mardi dans la douleur du piège tendu par le Sud-Africain Kevin Anderson en 8e de finale. Mené de 7-1, le tenant du titre avait vu son match interrompu hier par la nuit alors qu'il venait tout juste d'égaliser. Au final, le numéro 1 mondial serbe l'emporte. Le score 6-7, 6-7, 6-1, 6-4, 7-5. Maria Sharapova, elle, a rallié les demi-finales de Wimbledon pour la première fois depuis 2011. Après un succès plus que laborieux, la Russe bat dans la douleur l'Américaine Coco Vandeweghe, 47e joueuse mondiale en 3-7, 6-2, 6-7, 6-2.
Football, rubrique transfert.
L'emblématique capitaine du Real de Madrid, Iker Casillas, a reçu une offre du club portugais du FC Porto et il en est enchanté, c'est ce qu'a déclaré son agent au quotidien sportif espagnol Marca. Selon la presse, le Real de Madrid essaie de recruter le jeune gardien de Manchester United, David De Gea, pour rajeunir le club en remplacement de Casillas. Si le départ de Casillas est confirmé, il s'agirait de l'un des transferts les plus remarqués de la saison. D'autant qu'après 25 ans passés au Real, le portier de 34 ans a répété ces derniers mois son envie de finir sa carrière au sein du club madrilène, où il dispose d'un contrat en or s'achevant en 2017. Tenez-vous bien, en 25 ans, dont 16 saisons passées professionnelles, Iker Casillas accumule un large palmarès, 3 Ligues des Champions pour un total de 19 titres.
Quatrième étape du Tour de France.
Ouais, l'Allemand Tony Martin a remporté ce mardi à Cambrai une étape avec plusieurs secteurs pavés de Paris-Roubaix. Il endosse du même coup le maillot jaune. Le Britannique Chris Froome n'a rien cédé à ses adversaires.
Floyd Mayweather n'a plus de ceinture WBO.
Le boxeur qui a conquis ce titre face à Manny Pacquiao n'a pas versé à la World Boxing Organization le montant dû après sa victoire. L'Américain vainqueur au point d'un très décevant match du siècle le 2 mai dernier à Las Vegas a empoché quelques 220 millions de dollars selon les estimations. Or, le règlement de la WBO veut que les boxeurs lui reversent 3% de leur bourse pour un combat avec un titre mondial en jeu avec un plafond de 200 000 dollars. Le règlement prévoit également qu'un champion WBO dans une catégorie de poids ne puisse également être détenteur d'un titre mondial dans une autre catégorie. Or, Mayweather détient les ceintures WBA et WBC des super welter.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Timothée Donangmaï et Morgane Guiriek en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Au Burundi, alors que les résultats des législatives viennent d'être annoncés, on attend toujours de connaître la réponse du gouvernement burundais concernant un report de la présidentielle du 15 au 30 juillet. C'est l'une des recommandations du dernier sommet de Dar es Salaam. Nicolas Pinault a joint le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe, qui rentre tout juste de Bujumbura.
Nous recevons ces recommandations positivement. En général, il peut y avoir l'un ou l'autre détail qui est réglé, mais en général, on les reçoit positivement parce que nous considérons que la région s'est réunie pour aider le Burundi, pas pour couler le Burundi.
Donc un nouveau report de la présidentielle serait envisageable ?
Absolument, absolument. Moi, je pense que c'est une question qui doit être traitée avec la plus grande attention, sans donner de détails ni de précisions, n'est-ce pas ? Par rapport à une décision qui doit être prise dans les jours et heures qui viennent. On va devoir soumettre la question précise du report des élections à la commission électorale qui doit revenir vers nous avec une proposition concrète pour un appel cette fois-ci des électeurs à une date qui aura été convenue. En tout cas, si c'est le 30 juillet que la commission électorale va confirmer, on va y aller. Si c'est le 15 juillet, on va aussi y aller. Mais je considère d'emblée que globalement, en tout cas, le package Dar es Salaam est un bon package pour mon pays.
Qu'est-ce que vous pensez de la victoire du CNDD-FDD aux législatives ? La commission électorale vient d'annoncer une victoire, 77 sièges sur les 100 disponibles.
C'est la confirmation que c'est le parti le plus fort dans le pays. Je crois que personne n'a de doute par rapport à ça. Même ceux qui, dans la communauté internationale, auraient des positions tout à fait moins amicales envers nous, ils reconnaissent quand même que le parti CNDD-FDD, c'est le parti le plus fort du pays et ses résultats viennent le confirmer.
C'était un scrutin crédible selon vous ?
Absolument, très crédible même. Je crois qu'on peut discourir longtemps, il peut y avoir tel aspect qui n'a pas plu à tel ou tel acteur international. Les élections se sont déroulées dans des conditions optimales.
Que faites-vous des déclarations de Leonard Ngengatumana, le bras droit du chef putschiste Godefroy Niyombare, qui a justement revendiqué certaines attaques au Burundi récemment ?
Ce sont ces revendications qui prouvent encore une fois qu'on a parfois trop jugé notre gouvernement pour des actes ou des faits qui n'auraient pas dû lui être imputés. Au moins, on a la certitude que le gouvernement a fait de son mieux et que désormais, la question de ceux qui ont voulu remplacer les institutions prouve davantage la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures assez sérieuses pour garantir la sécurité et des institutions, mais aussi du peuple burundais.
Voilà, c'était le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Nyamitwe, qui rentre tout juste à Bujumbura.
Nous partons maintenant au Niger, où le secteur des finances publiques est paralysé. Une grève de 5 jours a débuté hier à l'appel des syndicats des travailleurs du ministère des Finances. En cause, la répartition des primes de motivation entre agents. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdourazak Idrissa.
Ce mouvement de grève est la conséquence d'un bras de fer entre les syndicats du ministère des Finances sur l'application d'une loi qui accorde des motivations aux agents du dit ministère. Ya Moussa est le secrétaire général du syndicat national des agents du Trésor, un des syndicats qui observe la grève.
Nous avons constaté, après 12 ans, que l'esprit de la loi en tant que tel est violé dans son application. Parce qu'on a consacré 70% à une seule administration, 30% à d'autres administrations.
Le syndicat national des agents des impôts a lui appelé ses militants à ne pas observer le mouvement de grève pour des raisons évidentes qu'explique son secrétaire général Oumarou Moussa.
Nous savons que la loi est de notre côté.
C'est nous qui produisons, c'est pas eux qui produisent. Et par rapport à cela, on nous donne une ristourne. Mais nous nous avons dit que par solidarité, nous allons donner 30% de ce que nous gagnons. Quelqu'un qui est dans son bureau, assis, qu'on lui amène 30%, et il dit que c'est insuffisant. Alors combien on va lui donner? Nous sommes d'accord pour qu'on applique la loi. Nous sommes d'accord pour la solidarité. Mais la solidarité, elle a des limites.
5 jours de grève qui vont certainement ralentir les activités dans ce secteur pourtant vital pour le pays, regrette ce citoyen.
C'est le secteur qui a la charge donc régalien de mobiliser des ressources qui permettraient à l'État de faire face à ses obligations. Et donc si ce secteur-là est en ébullition, donc je pense qu'effectivement c'est l'État qui en partira en premier lieu. Et puis bon, maintenant les autres citoyens, parce que certainement qu'aujourd'hui vous avez des fournisseurs qui attendent des règlements, vous avez d'autres acteurs qui attendent quand même aussi en tout cas des règlements au niveau du Trésor ou qui attendent de la part de l'État le respect de certains engagements qui ont une conséquence financière.
Abdulrazak Idrissa Agnamé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap sur le Togo. Il y a 5 ans, les autorités s'étaient fixé l'objectif d'avoir une couverture en planification familiale de 25% à l'horizon 2020. Alors que l'échéance approche, le programme transfrontalier Agir PF met à contribution les organisations de la société civile. De Lomé, la correspondance de Kay Lawson.
La santé et la démographie sont des composantes essentielles d'une planification pour le développement. Pour concilier les deux et permettre aux familles togolaises d'être maîtresses de leur vie reproductive, le concept de planning familial est vulgarisé. En janvier 2014, le projet transnational Agir pour la planification familiale Agir PF a été lancé. Financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID, il est exécuté dans 5 pays que sont le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger et le Togo. André Koalaga, directeur technique de Agir PF.
Agir pour la planification familiale, pour soutenir 5 pays de l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre de leur plan d'action pour le repositionnement de la planification familiale. Le taux de prévalence contraceptive était autour de 13%. Et le pays avait donc dit qu'il fallait que d'ici 2020, on puisse atteindre au moins 25%.
Pour pouvoir atteindre les 25%, la coordination d'Agir PF associe la société civile togolaise. 5 organisations viennent de recevoir un appui de près de 70 millions de francs CFA pour contribuer à l'augmentation du taux d'accès à la contraception au Togo. Maounio Zigan de CRIPS Togo.
Permettre à ce que les facteurs socioculturels qui pèsent sur la demande des services de PF soient levés. Vous savez, il y a la réticence de certains maris donc, qui empêchent notamment leurs femmes d'aller solliciter les services de planification familiale. Il y a les us coutumes. Il y a aussi l'accès financier, moins pour les femmes. Mais les services n'est pas aussi coûteux que ça. C'est l'information qui est autour de la chose qui ne passe pas.
Si le projet de CRIPS Togo met l'accent sur les jeunes, l'ONG Petite Sœur à Sœur a pour cible la gente féminine. Ama Yao, directrice de l'ONG Petite Sœur à Sœur.
Ce projet nous permettra de sensibiliser d'abord les populations ciblées sur l'importance de la santé sexuelle et reproductive d'une part et de rapprocher les services de planning familial, de santé maternelle et infantile des populations, surtout des femmes et des filles de ces localités.
Au-delà de la planification familiale, le programme Agir PF a également dans sa ligne de mire la lutte contre le VIH-SIDA.
Le programme a plusieurs volets. Il y a la planification familiale, il y a le genre, il y a la lutte contre le VIH et le SIDA, les ISC, tout un programme.
L'USAID appuie le Togo sur différents projets dans le domaine de la santé. En juin dernier, le projet Dendi a été lancé. Kailasson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Dimanche 14 juin, deux jeunes marocaines font leur course dans un souk de la ville d'Inzégane, dans le sud du Maroc, lorsqu'elles sont interpellées par un commerçant qui pointe du doigt leur robe jugée attentatoire à la pudeur. C'est alors qu'une foule en colère s'amasse autour d'elles. Les jeunes filles ont comparu hier devant un tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Salwa Jafari a posé la question à Saïda El Idriss, vice-présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc.
La police, au lieu de conduire vers leur voiture pour prendre leur voiture et partir, elle les a interpellées et ils étaient au commissariat. La police a fait un PV. Il les a mis en garde à vue pendant 24 heures. Après ça, ils ont été présentés devant le procureur du roi qui a essayé de les poursuivre en état de liberté. Et leur procès s'est déroulé hier. Ils ont identifié 4 agresseurs et une plainte a été déposée par les avocats qui se sont portés volontaires. Une plainte a été déposée auprès du parquet le vendredi dernier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la première fois qu'un cas pareil se produit au Maroc, et c'est la première fois aussi qu'il y a un élan de solidarité et un élan dans toutes les grandes villes.
Alors certes, une erreur a été commise par ces personnes qui se sont attaquées à ces jeunes filles, mais la plus grosse erreur est celle de la police qui les a arrêtées. Que dit exactement la loi marocaine dans ces cas-là?
La loi, par rapport à l'article du code pénal, la loi est très vaste. C'est-à-dire atteinte à la pudeur selon une tenue vestimentaire quelconque, mais rien n'est précis. Elle est vraiment très vaste. Il n'y a pas de précision. Sinon, tout le monde va être en prison. Elle est très vaste. Elle n'est pas précise, par exemple, dans la procédure pénale. Dire, voilà, telle personne nue ou habillée comme ça et telle avec tels habits, elle va être incarcérée, va être interpellée. Non.
Saïda El Idriss, la vice-présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc.
Cette affaire a provoqué un tollé dans les médias, les réseaux sociaux. Certains pointent du doigt le gouvernement islamiste marocain. Le gouvernement du PJD est-il responsable de cette vague d'intolérance? Écoutez à ce sujet l'analyste politique Mustapha Tossa.
Moi, je crois qu'il faut attribuer ce genre de faits, ce genre d'incidents à ce que beaucoup appellent la daïchisation des esprits. C'est que la société marocaine, parce qu'elle interréagit avec tout ce qui se passe dans le monde arabe et musulman, est en train de subir, elle aussi, cette vague de moralisation de la vie publique. Les gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Et donc, forcément, il y a une pression sociale qui monte sur tous les symboles, entre guillemets, dits de modernité.
Voilà, c'était l'analyste politique Mustapha Tossa.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité, Morgan.
Au moins 25 personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées et 32 blessées ce mardi par l'explosion d'une bombe attribuée aux islamistes de Boko Haram dans des bureaux de l'administration locale à Zaria, dans le nord du Nigeria.
Lutte contre le terrorisme au Mali, Ali Agouadoussen, responsable malien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué dimanche par les forces spéciales françaises de l'opération Barkhane. C'est ce qu'indique un communiqué de l'armée française.
En Centrafrique, des hommes armés armées non identifiées ont fait irruption la nuit dernière dans les locaux de la radio nationale, blessant l'un des trois gendarmes de faction. Les assaillants, qui seraient une dizaine, ont forcé la régie, puis tenté de s'introduire en vain dans le studio principal.
Législative burundaise, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, rafle 77 des 100 sièges en jeu. Et c'est ce qu'indique les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Présentation Morgane Yayek et Timothée Donangmaï.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.